Bonjour à tous, en ce beau dimanche pluvieux. Ça va?
Oui.
Ça va?
Oui.
Ça va?
Oui.
Ah, voilà, vous êtes là. Je voudrais dire un beau, grand, grand bonjour à notre ami Vincent Macari. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Nous pensons à toi, nous t'aimons, nous te chérissons dans nos cœurs et vraiment tu es avec nous et nous t'aimons et les épreuves par lesquelles tu passes, ça passe. Amen. Nous croyons de tout notre cœur. On dit aussi bonjour à Morgane, on dit aussi bonjour à Liliane, on dit bonjour aussi à la sœur Bonnet, on dit bonjour à tout le monde. Amen.
Amen.
Je sais qu'elle nous écoute, elle m'aime beaucoup, moi aussi je l'aime beaucoup. En ce moment, on se boude un petit peu, mais parce qu'on a tous les deux un sale caractère, mais ça va aller. Amen. C'est comme ça la vie, hein? C'est pas comme ça la vie? Oui, souvent, avec les gens qui ont du caractère. Bien, on va lire Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17.
Éphésiens
5, versets 15 à 17. Je lis. Dans la version Alfred Kuhn, dans la version seconde. Vous allez voir, après on va la lire dans la version Alfred Kuhn, vous allez voir la différence. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ouais. On les compte. Déjà à l'époque, rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Eh ben mes enfants,
il y a 2000 ans, vous rendez compte? C'était déjà comme ça, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein. Il n'y a rien de nouveau sous ce... Mais ça va changer, puisqu'on va avoir des élections. Tout va devenir merveilleux maintenant. Vous y croyez, vous?
Non.
Non, moi non plus. Mais c'est pas grave, on prie quand même pour notre gouvernement, et puis voilà, ben Dieu fera comme il voudra, et puis voilà. Amen. J'ai souvent remarqué que les gens, je dirais même la majorité des gens, se mettent au service de leurs désirs inférieur. Ils mettent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur intelligence, leur raisonnement, leurs émotions, leur sensibilité, au service, en fait, de leur désir inférieur. C'est embêtant, quand même. Ils ne pensent pas que toutes ces facultés extraordinaires que Dieu nous a données devraient être mises on travaille au boulot pour réaliser des idéaux, les idéaux de leur esprit et de leur nature supérieure. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que tu me remplisses de ton esprit et que tu remplisses de ton esprit ceux qui sont là en train d'écouter afin que quelque chose se produise pour que ils puissent non pas suivre et se conformer au siècle présent mais qu'ils puissent alimenter leur être supérieur pour pouvoir le manifester à la gloire de ton nom et pour leur bien et le bien des autres. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Le royaume de Dieu ne pourra venir sur la terre que si l'épouse de Christ rassemble et mobilise toutes ses forces, toutes les forces de sa nature divine, supérieure. Sinon, ça retarde le retour de Jésus. Nous devons rassembler et mobiliser nos forces supérieures dans ce but. Que ton règne vienne. Ça fait partie de la prière que nous faisons quand nous faisons de notre Père. Que ton règne vienne. Oui, mais il a dit qu'il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et si nous n'entrons pas dans le rétablissement de toutes choses, pour une raison ou pour une autre, pour le confort, pour ceci, pour ça, eh bien, nous retardons le retour du Seigneur. Et nous voyons là, dans le texte que nous avons vu, racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est pas Dieu qui rachète le temps, c'est nous. Donc nous avons notre part de responsabilité dans cette affaire. Il est dit que à la fin ça serait tellement grave que Dieu abrégerait, n'est-ce pas, les jours pour que sinon ce ne serait pas possible, il n'y aurait personne qui serait sauvé. Bon, à la fin Dieu verra que c'est vraiment tellement grave que Mais en attendant, c'est à nous de faire pour que ça se termine une bonne fois pour toutes et que Jésus puisse venir établir son règne. Il nous dit de le faire. Est-ce que vous croyez que Paul est inspiré par le Saint-Esprit ? Moi, je le crois. Si vous croyez que je suis inspiré par le Saint-Esprit, vous devez croire ça et dire... Il ne faut pas dire ça ne sert à rien que moi je le fasse parce qu'il y en a des millions qui ne le font pas. Non, vous devez, je dois, nous devons prendre ça d'une façon personnelle et puis influencer les autres, leur donner envie qu'ils se rendent compte que votre vie, que ma vie est excitante, intéressante, passionnante, différente et qu'ils en éprouvent une sainte jalousie. Amen.
Amen.
Mais si nous ne sommes pas une lumière bien en vue sur la colline, on ne fait pas envie. Et les chrétiens, je vous garantis, ils ne font pas envie. Et vous savez, la première personne à qui ils ne font pas envie, qui c'est ? C'est moi. Si je ne suis pas resté chrétien à cause des chrétiens, hein. Ah non ! Je suis resté chrétien à cause du Saint-Esprit qui vit en moi, à cause de Jésus que j'aime et qui m'aime, mais pas à cause des chrétiens. Ils ne me font pas envie. Pardon, je ne suis pas gentil, Seigneur. Mais je dois dire ces choses. En tant que serviteur, je dois dire ces choses. Quand vous lisez les prophètes, on se dit des fois, oh là là, ils sont durs. Oui, mais ils disaient les choses qu'il fallait. Ils disaient les choses qui étaient nécessaires. Et moi, si vous voulez, je peux vous parler. Allez, c'est qui déjà ? Zachée qui descendait de son arbre tous les dimanches. Ben non, je ne ferai jamais ça. Je vous dirai ce qu'il doit être, ce qui doit être dit. Et ce qui doit être dit, ben c'est par exemple ce matin, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui doit être dit. Nous devons rassembler et mobiliser nos forces supérieures personnelles dans le but que son royaume vienne. Malheureusement, l'épouse de Christ dort, ronfle, cauchemarde, écoute des fables, s'en gargarise, excusez-moi l'expression, mais Nicolas Savadogo dit il pratique la masturbation spirituelle, c'est-à-dire un plaisir solitaire qui n'apporte rien du tout. Et après, on se sent coupable, en plus. Il s'occupe de futilité. Alors, je vais vous dire la vérité, mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Vous qui êtes des chrétiens des nations, nous sommes là, des chrétiens des nations. Bientôt, c'est la fin du temps des nations. C'est-à-dire, c'est le mondialisme, n'est-ce pas ? On le voit, c'est déjà là, hein ? C'est déjà là, il n'y a même pas besoin de l'expliquer, on le voit bien. Eh bien, nous sommes à la fin du temps des nations. Alors, nous qui sommes des chrétiens des nations, nous avons à vivre l'évangile au lieu simplement de nous borner à l'écouter comme une bande de somnambules. Dans la Bible, il dit que ce sera comme au temps de Noé. Qu'est-ce qu'il faisait au temps de Noé ? Il buvait, il mangeait, il se mariait, tout. Mais c'était normal. Alors on dit, oui, mais alors il faut faire quoi ? Eh bien, autre chose, quelque chose de supérieur à ça. C'est normal qu'on mange, on boit, on se réjouit, on marie nos enfants. C'est normal. Mais nous devons faire d'autres choses, des choses supérieures, des choses différentes, des choses qui impactent ce monde afin que les gens soient sauvés. C'est ça, racheter le temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se marier, ou de marier nos enfants, ou de manger ou de boire. Et on sera comme du temps de Noé. Ça veut dire qu'ils ne faisaient que ça, voilà, ils s'occupaient de leurs petites affaires. « Oh, je dois marier ma fille, je dois marier mon fils, oh, c'est très important, il n'y a rien de plus important dans ma vie !» On pense qu'à ça, on pense que « qu'est-ce qu'on va manger ?» Comment je vais être habillé ? Il faut que je m'habille comment ? Pense pas à l'essentiel. Et alors ça c'est pour les chrétiens, les nations. Maintenant allez hop, un petit coup pour les juifs. Vous qui êtes des chrétiens d'origine juive, vous cherchez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Vous vous moquez de qui là ? Eh bien moi je vais vous le dire, vous vous moquez de Dieu en demandant à Dieu qui vous révèle ce que vous devez faire. Je vais vous dire ce que vous devez faire. Et c'est ainsi dit le Seigneur dans toute la Bible. Vendez tout et allez vous établir en Israël. C'est ça que Dieu veut pour les Juifs. Et si tu es juif, fous le camp en Israël, c'est là la prophétie qui est donnée pour la fin des temps. Je rassemblerai mon peuple d'Israël en Israël dans sa terre. Qu'est-ce que tu fous en France? Qu'est-ce que tu fous dans ton pays? Va en Israël, c'est là ta place. C'est là l'esprit de prophétie, c'est là où le Saint-Esprit te conduit en Israël. Ah bon? Mais ça va être difficile. Bien sûr que ça va être difficile. Est-ce que c'était facile? Ça n'a jamais été facile pour personne, jamais. Mais c'est cela que Dieu veut pour vous, les Juifs. Ne vous le ferez pas. Vous ne le ferez pas. S'il y a un Juif qui m'écoute là, ou une Juive, qui me croit et qui le fait, écrivez-moi. Je vais vous faire un immense cadeau si vous le faites. Je vous promets. Mais je prends aucun risque. Personne ne va le faire. Ils ne vont pas le faire. Tous ces juifs qui m'écoutent. Bah, parce qu'ils veulent servir leurs désirs inférieurs. Ils veulent servir Dieu. Mais tant que vous êtes en dehors de votre terre, vous êtes un empêchement à l'établissement du royaume de Dieu. Ça, c'est dit. Fallait le dire. Ben, je l'ai dit.
Oh, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté que j'aille en Israël?
Bien sûr que c'est la volonté de Dieu que tu ailles en Israël. Bien sûr, t'es juif, ta place est là-bas. C'est pas que je veux pas que tu sois en France, mais Dieu veut que tu sois là-bas. C'est écrit. Tu le sais que c'est écrit. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il veut alors que c'est écrit ce qu'il veut? Vous savez quoi? Plus vous servez votre nature inférieure, vos désirs de confort, Votre orgueil de la vie, votre petit moi, vos petits machins dérisoires, plus vous sentez, plus vous avez conscience de que votre vie intérieure est vide et que vous êtes et que votre insatisfaction grandit. C'est ça la vérité. Même si vous faites des sourires, que vous levez les bras et que vous chantez Alléluia. Moi, j'y crois pas à votre paix intérieure tant que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, je vais encore vous dire quelque chose de terrible ce matin. La nature inférieure des chrétiens, elle est rassasiée, elle est repue, elle est obèse, elle n'en peut plus, elle a les dents du fond qui baignent, elle est prête à vomir. Mais l'autre nature, c'est-à-dire Christ en vous, votre esprit régénéré, votre âme sauvée, elle est affamée. Elle souffre et elle est insatisfaite. Et vous le savez. Voilà pourquoi Jésus ne revient pas. Il devrait déjà être venu. Il tarde. Mais il va revenir, c'est sûr. Mais il devrait déjà être revenu. Mais son épouse n'est pas prête et il use de compassion envers elle, en voyant ses serviteurs, sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, pour dire, mais non. Il nous dit de racheter le temps, et l'épouse ne rachète pas le temps, elle le gaspille. Quand vous écoutez la parole prêchée, votre nature supérieure en vous est réjouie. Vous dites, ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais quand vous ne voulez pas la mettre en pratique, elle souffre en même temps. Elle souffre. Parce qu'elle est sans nourriture, vraiment. C'est comme si quelqu'un vous invite à un bon repas, vous présente les plats, puis vous dit, ah, mais moi, vous les avez vus, vous les avez sentis, mais ça suffit, au revoir. Vous ne les mangez pas. Vous ne les consommez pas. Vous ne consommez pas la parole de Dieu, vous faites que l'écouter. Frère Osborne a raconté la vision. Je ne sais pas si c'est lui qui a eu la vision ou si c'est quelqu'un d'autre qui a eu la vision. Quelqu'un qui a visité le ciel et il a vu que le paradis était rempli. C'était des fils d'étendage avec des trucs rouges qui pendaient. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est? C'est des piments? Et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas des piments, c'est des oreilles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a toutes ces oreilles qui sont pendues au fil d'étendage comme ça? Mais parce que ma parole a touché que les oreilles, donc il n'y a que les oreilles qui sont sauvées. Ça fait rire, hein, mais ça fait réfléchir aussi. Quand vous écoutez la parole de Dieu prêchée, votre nature supérieure se réjouit. Mais il faut manger cette parole. C'est-à-dire, quand vous mangez la parole, vous l'intégrez et elle devient vous. Jésus, quand il est entré dans la synagogue, il a lu un passage, il a dit, ça c'est moi. Cette parole-là, c'est moi, elle est accomplie aujourd'hui. Moi, quand je lis Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, Galates 6, Psaume 133, Luc 14, 33, je dis, ça c'est moi, il est question de la parole de Dieu, il est question de moi là, c'est moi, je le vis ça. Amen.
Amen.
Waouh. Ça réjouit mon être supérieur, l'être supérieur qui est en moi, mon esprit régénéré, mon âme sauvée, Jésus-Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit. Alors Dieu qui vit en nous, il vient et il nous harcèle et il dit, et moi alors, tu ne me donnes rien? Tu ne me donnes rien? Et voilà d'où vient l'insatisfaction des chrétiens. Ces chrétiens qui vont à l'église. Alors, là, j'en ai un qui m'a téléphoné hier. Je ne vais pas vous dire son nom, mais il va se reconnaître en m'écoutant. Il m'a téléphoné hier. Ah, oh, Michel, les églises. Oh là 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 là, la catastrophe. Ben oui. Ben oui. Mais moi, je le sais. Je suis parti, moi. Je suis sorti. Pas pour refaire de nouveau le même truc, le même modèle, mais pour faire le modèle biblique. Vous savez, aucune époque n'a autant que la nôtre développé des possibilités de contenter notre nature inférieure. Et jamais les gens ont été aussi insatisfaits. Autrefois, les gens avaient presque rien. Aujourd'hui, nous avons toutes les commodités et c'est justement aujourd'hui que la majorité des gens se sentent malheureux, vides, désaxés, pas à leur place, ils savent pas, ils comprennent pas. Toutes ces technologies, toutes ces techniques, toutes ces inventions sont mises au service de notre nature inférieure. Est-ce que vous vous rendez compte? Toujours, je regardais un forum, c'était des gosses qui parlaient au sujet d'Harry Potter. Et il disait, Harry Potter, il a une baguette magique, il fait ce qu'il veut avec, c'est génial, c'est super. Puis il y en a un qui a dit, mais nous aussi on a une baguette magique, notre téléphone portable. Il n'avait pas tort. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec un téléphone portable. Vous avez là-dessus Internet, vous avez toutes sortes d'informations, toutes sortes de trucs, vous pouvez vous enrichir spirituellement, intellectuellement, on peut faire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le portable?
Ça va bien. T'es où? Je suis en train de manger. T'as fait quoi hier soir? Ah bon? Moi j'ai regardé la télé. C'était super!
La haute technologie au service de notre nature inférieure. C'est-à-dire, quel dommage! Alors que ça, c'est un moyen extraordinaire pour atteindre les âmes qu'on pourra jamais atteindre. Gratuitement. Internet, c'est gratuit. Illimité. Mais qui s'en sert pour apporter la parole de Dieu aux autres? Pourquoi l'épouse de Christ ne peut pas comprendre qu'il existe en elle des besoins qui sont des besoins divins? Qui ont besoin d'être satisfaits. Voilà d'où vient l'insatisfaction. Pour moi, ça semble complètement inouï qu'au 21e siècle, siècle lumineux s'il en est, vous direz les ténèbres aussi, bien sûr, c'est vrai, mais c'est lumineux, on a tout à notre portée, eh bien les gens, et particulièrement l'épouse de Christ, n'arrivent pas à voir l'essentiel. On leur parle du retour de Jésus, ces espèces de grosses nouilles patentées et diplômées, cornichons diplômés à la graisse de renoncule, plutôt que de se préparer dans la sanctification et de vivre ce que la Bible dit, c'est-à-dire pour les nations faire ce qu'ils doivent faire, pour les juifs faire ce qu'ils doivent faire, non, ils s'amusent à chercher de la date. Alors que Jésus dit qu'on ne peut pas la savoir. Non mais c'est de la folie. Ou alors ils s'amusent à dire « Vous avez vu, c'est grave les Illuminati, poilou zizi. Vous avez vu, c'est grave les francs-maçons, poilou. » Bon, on continue pas. « Oui, c'est grave, mais on s'en fout, nous on a quelque chose à faire, faisons-le. » Amen.
Amen.
On s'en fout, comme disait l'autre. Mes frères et sœurs, quelle que soit notre condition, nous avons un grand pouvoir, celui de hâter la venue du Seigneur Jésus. Nous avons le pouvoir de racheter le temps. Est-ce que vous imaginez ça? Personne n'a ce pouvoir de racheter le temps. Est-ce que vous employez votre temps à racheter le temps? Nous avons le pouvoir de racheter le temps en nous comportant avec sagesse envers ceux du dehors. Maintenant, ça c'est ce qu'on a lu dans Colossiens. Non, on n'a pas lu. Dans Colossiens 4, 5.
Il est dit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Comment racheter le temps?
En se conduisant avec sagesse envers qui? Envers ceux du dehors. C'est qui ceux du dehors?
C'est les multitudes qui se perdent. Alors évidemment, ça demande d'abandonner nos habitudes religieuses. Cela vous fera passer par des difficultés, ça c'est certain. Si vous abandonnez vos habitudes religieuses, ça va vous faire passer par des difficultés, ça c'est certain. Mais aussi, élevé que soit le prix que ça va vous coûter, ça sera jamais aussi cher que le prix que payent ceux qui foutent rien. Vous savez, quand j'étais en salle de Shingyo à Chartres, je voyais à côté de moi des hommes, des femmes qui étaient là aussi, avec le cathéter et la chimio qui passait, ça durait 2 heures, et je les voyais, je les entendais, il y en avait qui étaient plus ou moins près de la mort, il y en a certainement maintenant aujourd'hui qui sont morts. Eh bien, je vais vous dire une chose, je les ai bien regardés et je les ai bien écoutés. Je peux vous dire une chose, quand on est près de la mort, on s'en fout de savoir ce que les gens pensent de nous. On s'en fout de nos habits. Quand on est près de la mort, on s'en fout de notre maison, on s'en fout de tout. Tous ces gens-là, ils regrettaient qu'une chose, on entendait ça dans les conversations, tous, ils disaient « J'ai fait quoi de ma vie ?» Tout ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Vous savez, rien n'arrive sans effort. Rien n'arrive sans casser les habitudes. Rien n'arrive si on se complaît dans ce que le monde appelle une vie normale. La vie normale selon le monde, c'est une vie d'anormal selon Dieu. La vie selon le monde, c'est une vie d'anormal, de contre-nature selon Dieu. C'est des anormaux. Nous n'avons pas à nous conformer à ça. Mon frère, ma sœur, rien n'arrive sans effort, rien n'arrive sans sacrifice, rien n'arrive sans ténacité, rien n'arrive sans foi en action, rien. Parce que la vie, pour que Jésus se manifeste, nous devons faire tomber les barrières de nos préjugés religieux et sociaux. C'est ça, et c'est ça, et je peux vous le dire, ça exige beaucoup de courage. Le courage, en ce moment, ça ne court pas les rues. Pour avoir du courage, il faut maîtriser sa peur. Parce que la peur, tout le monde a peur. Les héros ont peur. Quelqu'un qui n'a pas peur et qui fait des choses héroïques, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas tout à fait... il n'est pas conscient, il y a un problème. Tout le monde a peur, c'est normal. Mais on maîtrise sa peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps et ça paralyse. Vivez le moment présent, c'est-à-dire aimez dans le moment présent. C'est ça que la Bible nous dit là. C'est que ça que la Bible nous dit. Comportez-vous avec circonspection envers ceux du dehors. Ça veut dire aimez-les. Aimez. Alors que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez impotent, que vous soyez en santé, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, aimez, aimez, aimez. D'abord, aimez-vous vous-même. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Ça, c'est Jésus qui le dit. On n'y coupe pas. Les gens qui disent « moi, je m'aime pour... » Ben, ça, on a vite vu, hein. Et apprenez à vous aimer tel que vous êtes, avec vos tares, avec vos manquements, avec vos difficultés physiques, psychiques, psychologiques, mentaux et que sais-je. Avec vos difficultés mentaux, ça ne se dit pas ça, c'est vos difficultés mentales. Aimez-vous avec tout ça. Vous êtes ce que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes. Puis faites des progrès, ce n'est pas interdit. Mais travaillez à vos progrès, avec crainte et tremblement, faites-le. Mais acceptez-vous. On a tous une couche de crétinisme aigu, chacun la sienne. Mais aimez-vous tel que vous êtes. Pardonnez-vous aussi. Vous avez fait des bêtises, pardonnez-vous. Dieu vous pardonne et vous êtes là encore. Pardonnez-vous. Aimez la personne que vous êtes. Chérissez-vous vous-même. Vous ne pourrez pas chérir les autres si vous ne chérissez pas vous-même. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Vous ne pourrez pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez aimer les autres que dans la mesure où vous vous aimez vous-même. Aime ton prochain comme
toi-même.
Comme toi-même. Fais la paix avec tes jours et tes nuits. Avec ton temps. Fais la paix avec ton temps. Rachète-le. Fais que ça soit un bon temps, le temps d'aimer. Et puis ensuite, après avoir bien pris soin de toi, de t'aimer, etc., etc., aime les autres, mais avec sagesse. La Bible nous dit avec sagesse. Vous pouvez aimer n'importe comment. Hein. Il y en a, vous avez des gens, ils s'aiment avec des déséquilibres pas possibles. Il faut être équilibré. Aime avec sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, hein, premièrement, ta famille. Avant tout, c'est ta famille. Ensuite, c'est tes frères et sœurs dans la foi. Ensuite, c'est tes amis. Après, c'est tes connaissances. Après, c'est tes voisins. Ton pays. Et puis après, les étrangers. Et puis après, le monde entier. Ah, c'est facile d'aimer le monde entier si on n'aime pas son voisin. Je connais plein de gens déséquilibrés comme ça, hein. Ils prient pour les petits Chinois pour que Dieu les aide. Mais ils ne vont pas faire un pas pour aller aider la petite vieille qui habite à côté de chez eux. Ils sont déséquilibrés. C'est ce que nous dit Paul. Maintenant, je vais vous lire dans la parole vivante, dans la version d'Alfred Culot. Voilà ce qu'il dit. Que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers les non-chrétiens. Sachez trouver le bon moment pour leur parler, en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toute occasion favorable. Parlez-leur de la grâce avec amour, mais sans fadeur, afin de gagner leur cœur. Ça, c'est la traduction d'Alfred Kuhn. C'est une traduction amplifiée, c'est-à-dire que les mots ont des valeurs, et souvent les mots ont plusieurs niveaux de valeur. Et là, il a pris tout ce qu'il y a de meilleur dans le texte, et il l'a mis dans... et c'est magnifique. Ce texte est absolument magnifique. C'est ça, racheter le temps. C'est ça, racheter le temps. C'est l'utiliser, non pour vos désirs inférieur, mais pour ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. Et c'est quoi ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu? C'est de sauver des âmes. C'est ça. C'est pas de construire des grandes églises. C'est d'aller sauver des âmes. C'est pas d'attendre que les âmes viennent au portail pour être sauvées. C'est d'aller les chercher. Ah, mais ça nous dérange notre petit confort. faut quitter le clavier de l'ordinateur, puis il faut sortir, puis il faut aller les évangéliser, puis des fois on est mal reçu. Et puis, je me sens plutôt un ministère de prière pour les perdus. Poil au bras, bande d'hypocrites. Il y en a qui vont dire je suis grossier, poil au nez. Dieu est de votre côté, mes frères et sœurs. La vie est de votre côté, mais vous devez l'aider. Comme vous vous aidez vous-même en mangeant, par exemple, en dormant, par exemple. Il faut aider la vie. Mes frères et sœurs, dans 70 ans, là, ceux qui sont devant moi, il n'y aura plus personne, on sera tous morts. Même les plus jeunes, hein. Dans 70 ans, on ne sera plus là, on ne sera plus sur cette terre. Nous serons près du Seigneur, c'est bien, mais vous savez, notre existence ici-bas, là, en ce moment, c'est cyclique. C'est des cycles. Je pensais à ça en regardant hier, on était en train de manger une bonne fondue avec notre frère Samuel qui nous a rendu visite, on est tout contents, maintenant on se connaît bien, et de mieux en mieux, encore hier soir on a discuté jusqu'à pas d'heure, et c'est très intéressant d'apprendre à se connaître, on peut mieux s'aimer quand on apprend à se connaître, et je regardais depuis ma place, je voyais la terrasse sur laquelle on ne peut pas encore aller manger parce qu'il ne fait pas encore assez chaud, bien qu'il fait plus chaud qu'en Normandie, merci mon Dieu. Mais bon, je regardais cette terrasse et puis il n'y a pas de feuilles là en ce moment. Hein. Et ça me faisait penser, je me disais, toutes ces belles feuilles qui ornaient notre terrasse, elles sont tombées par terre. Et puis Dominique, il a pris le balai et puis sans état d'âme, il les a enlevées, il les a foutues où ? Sur le tas de compost là-bas, ou je ne sais même pas où tu les as mis, mais enfin bon, on n'a pas pleuré pour les pauvres feuilles. On a pleuré, non. La vigne, elle s'est mise en veille. Elle est dans une saison de repos. Et je pensais, c'est comme nous, là, en ce moment, dans notre vie communautaire, ici, dans le sud-ouest, la vigne, nous sommes la vigne du Seigneur, et il nous a mis au repos. C'est bien. Il y a une espèce de frère qui est venu un jour, qui s'assied dans mon canapé, puis il me dit, je viens contempler ton échec, avec son accent suisse. Je dis, mais quel échec ? Je dis, mais on n'est pas dans l'échec. On est dans un temps de repos, béni de Dieu. On est tous là, tous les vrais frères et sœurs de la communauté. Et on a des projets, et ils sont sur le point de se réaliser. Là, encore cet après-midi, on va aller visiter un château. Je ne veux pas le dire. Il ne faut pas dire qu'on va visiter un super château. Il ne faut pas dire qu'on va visiter un super château. Quel échec ? Est-ce que vous pensez que parce que c'est l'hiver et puis que les arbres sont en fleurs là. Pensez-y, est-ce que la vigne a eu des états d'âme pour toutes ces belles feuilles qui l'ornaient et qui lui permettaient de respirer, parce que ça sert à ça les feuilles dans une vigne, et aussi à protéger les raisins. Un petit peu un peu trop de soleil, donc les feuilles sont là pour ça. Non, la vigne n'a pas eu d'état d'âme quand les feuilles sont tombées. La vigne a-t-elle eu des états d'âme pour les insectes qui vivaient là, dans ses branches, et qui contribuaient à la pollinisation, je ne sais pas si on dit ça comme ça, des fleurs ? Ben, non, elle n'a pas eu de... Ils sont tous morts, les insectes qu'on avait cet été. Est-ce que la vigne a dit « Oh, c'est bien triste, c'est terrible, c'est épouvantable ce qui m'arrive ?» Non. La vigne ne pense qu'à elle. Et Jésus, Dieu ne pense qu'à lui. Il a un plan et il fera ce qu'il veut. Et puis, vous êtes là dans le plan. Et puis, vous avez à faire ce qu'il veut. Et puis voilà. Parce que vous voulez ce qu'il veut. Il pense à lui. C'est son plan, c'est pas le nôtre. Arrêtons d'être des espèces de sentimentaux à vouloir changer le plan de Dieu à cause de notre petit confort. Donc, la vigne s'est débarrassée de certaines choses, comme les feuilles, comme les insectes, quand c'était nécessaire. Vous voyez ? Et nous sommes, pour notre part, tous, une de ces feuilles qui croyaient que nous serions éternellement sur la vigne sans savoir vraiment exactement pourquoi et à quoi ça sert, mais enfin, on peut être éternellement au château, voilà, c'est merveilleux. Et comme les feuilles de la vigne, nous avons tous notre confort, c'est-à-dire le soleil, la lune, le vent qui nous balance un petit peu, la pluie qui nous rafraîchisse un petit peu, on a profité de tout ça au maximum, et puis un jour, les feuilles ont jauni, mais pas du jour au lendemain, tout doucement, c'est venu assidieusement. Des petites discussions de bonnes femmes entre les portes qui ensuite allaient rapporter à leur mari des choses fausses ou plus ou moins vraies, etc. Les feuilles ont jauni et puis la vie a dit adieu la vigne, adieu les feuilles, poum poum poum, ça tombe. La vigne ne dit pas au revoir les feuilles parce que la vigne elle sait que la feuille ne reviendra
jamais.
La vigne sait qu'elle ne pourra pas se reposer et grandir si elle ne se débarrasse pas de ce qu'il faut quand il faut. C'est pas cruel. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Vous voyez, quand je mange la fondue, à quoi je pense? Et la vie va grandir, la vigne va grandir, et puis la vigne va être respectée. Toutes les visites qu'on va avoir cet été, quand ils viendront sur nos terrasses, ils vont dire « Oh, comme c'est beau! Oh, mais comme c'est agréable d'être dans ce coin d'ombre !» Et puis le soir, on allumera les petites lumières. Vous vous rappelez? Les rouges, les bleus, les jaunes. « Oh !» Ils vont faire quand on allume la lumière. Vous avez vu comme ils font? On allume la lumière. « Oh !» Puis ça donne un air féerique, avec la piscine à côté. « Oh, c'est beau, c'est mignon !» La vigne, elle produira encore ses feuilles, faut pas être découragé. Elle produira encore ses raisins, faut pas être découragé. La vigne, elle est au Seigneur. Nous sommes les feuilles de la vigne, ou le raisin, je ne sais pas quoi, mais on est au Seigneur. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître. Ennemi ou pas ennemi, de toute façon, il fait ce qu'il veut, puis il y arrive toujours, c'est lui qui est gagnant toujours, il n'y a rien qui se perd, parce qu'il veille à tout, il veille sur nous, et ce qui nous arrive, c'est sa volonté, et c'est bon, c'est bien, merci Seigneur. Votre vie ici-bas, notre vie ici-bas ne doit pas être comme la vie des autres gens. Nous sommes des êtres spéciaux, et nous le savons à cause d'un enseignement. Quel enseignement? De Jésus, des apôtres et des prophètes, que je vous apporte. Nous sommes des êtres spéciaux, nous avons à être spécial. Tu dois être spécial, tu ne dois pas être conforme au siècle présent, tu dois être conforme à ce qu'exige le propriétaire de la vigne. Si tu fais ça, que tu sois accroché à la vigne, ou que ce soit le moment où ça jaunit ou ça tombe, tu es content. Sinon, tu arriveras à la fin, et tu diras... Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'en ai vu, pendant mes séances de chimio, des pauvres hommes, des jeunes, des vieux, des pauvres femmes, vieilles, jeunes, belles, moches, qui étaient là, tout amaigris, avec les cheveux qui tombent, et qui disaient, mais je fais quoi de ma vie? À quoi ça a servi tout ça? Puis ils souffraient. Moi j'étais là, je regardais tout ça, j'écoutais tout ça, mais moi je savais, je suis un être différent. La vie, le Saint-Esprit est en moi, et moi je vais m'en sortir, à tous les coups je vais m'en sortir. Et je m'en suis sorti par la gloire de Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Voilà, bon, il y en a d'autres aussi qui s'en sortent, mais je veux dire, voilà, il faut avoir conscience que... Et puis moi, si par exemple je m'étais posé, j'ai fait quoi de ma vie? Mais c'est génial ce que j'ai fait. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait des bêtises aussi. Mais Dieu m'a pardonné. Mais il y en a qui m'ont pas pardonné. Mais vous savez ce que je pense de ceux qui m'ont pas pardonné? Je m'en fous. Ils m'ont pas pardonné mais les bêtises que j'ai fait? Je m'en fous. Ils veulent venir m'accuser? Je m'en tamponne les amygdales contre une porte de grange de ce qu'ils pensent. Des accusations qu'ils portent contre moi. Ben, ils ont raison. C'est vrai, je fais des bêtises. Et alors? Ce qui compte, c'est que j'ai essayé de les réparer et puis que Dieu m'a pardonné. C'est tout ce qui compte. Le reste, je m'en fous. Paul, il dit pas je m'en fous. Paul, il dit, oubliant ce qui est dans l'arrière, je cours dans la carrière qui m'est ouverte, je vais de l'avant. Il parlait mieux que moi, hein. Mais ça veut dire la même chose. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Tel que tu es, dans l'état où tu es de la valeur, tu es utile, sois fier. Aie le bon comportement de la foi. Relève la tête, sois fier. Je voudrais ce matin terminer ce culte et cette prédication en remerciant particulièrement une grand-mère, ma femme. Je voudrais te remercier, Michou, pour tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues à faire jusqu'à ce jour. Tu as été et tu es encore une femme extraordinaire et je te remercie de tout mon cœur et je le fais publiquement parce que je veux qu'on sache que je t'aime. Ma fille, Mélodie, la même chose, je t'adore, je suis fier de toi. Tu as des épreuves, mais tu les passes avec panache. Tu as des moments difficiles, mais tu te caches quand c'est des moments difficiles et tu nous montres toujours que un bon visage et merci. Tu es une fille formidable, je t'adore, je t'aime. Et mon gendre Eric, aussi je t'aime de tout mon cœur et je te remercie d'être ce que tu es, dans l'état où tu es, je t'aime comme tu es et je t'aimerai encore même si un jour j'ai dit à Stéphane, si t'as plus de bras, si t'as plus de jambes, je m'en fous, je t'aimerai toujours. Tu te rappelles que je te dis ça? C'est d'ailleurs ça qui t'a touché et qui t'a emmené à Dieu. Et bien je te dis la même chose Eric, je t'aime, je t'adore, t'es mon frère, t'es mon fils spirituel, tu es mon gendre, tu es le papa des gamins que j'aime le plus au monde, mes petits-fils, ma petite-fille, je vous aime. Mes petits-enfants, je vous aime. Et Rachel, je t'aime. Je vous aime. Et les frères et sœurs de la communauté, je vous aime. Et tous mes amis qui ont été fidèles, qui m'ont pas laissé tomber, je vous aime. Merci pour tout ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites et que vous continuerez. Je sais que vous continuerez à le faire. Vous êtes des gens merveilleux. Voilà, je voulais vous le dire, j'en témoigne en présence de Jésus-Christ ce matin, notre Sauveur, alors que nous lui rendons un culte. Je veux vous dire, oui, vous faites partie de la vigne de Dieu, eh bien, vous faites partie de Dieu, et quand je dis j'aime Dieu, je vous aime vous, parce que Dieu vit en vous, et je le vois. Je vous aime, je rends témoignage que sans vous, ma vie elle serait morne et triste. Je témoigne que vous êtes des héros de la foi, ayant osé croire ce que je vous ai enseigné de la part du Seigneur. Vous êtes des héros de la foi. Et je rends témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ que des milliers de personnes de par le monde vous envient, vous là, les frères et sœurs de la communauté. Je reçois des lettres, j'entends des choses, des gens me téléphonent, les gens me parlent, me disent. Ils vous envient. Ils me disent, j'aimerais avoir votre courage. Ils aimeraient avoir le courage que vous avez. Vous, il vous semble que vous n'avez pas de courage, que c'est normal. Oui, mais vous avez fait un choix à un moment donné. Et vous êtes tenu fidèle à ce choix. Votre récompense sera grande, mes frères et sœurs, au jour des récompenses. Et ce jour vient bientôt. Tenons donc tous fermes et continuons à racheter le temps. Amen. Jésus, je te bénis pour cette petite prédication et je te demande mon Dieu que tu aides mes frères et sœurs qui l'entendent à relever la tête, haut les cœurs et qu'ils aillent de l'avant et qu'ils rachètent le temps, qu'ils fassent ta volonté, ceux des nations, les juifs, que tous fassent ta volonté afin de hâter le jour de ton retour que nous attendons avec tant d'impatience et tant de joie. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.